Entretien. Jean-Claude Vernier, une vie de passion et d'utopie. Des expériences militantes, kaléidoscopiques, les yeux ouverts. Par Jean-Louis Vinet.
Jean-Claude Vernier, en 1974, claque la porte de Libération qu'il a fondée et rejoint la révolution des œillets au Portugal. Sa vie de militant, son projet pour Libération tient en une phrase. Laissez l'homme faire ce qu'il sait faire. C'est un journal qui appartient à ses lecteurs. Puis une nouvelle rédaction pour une radio portugaise. Un restaurant ouvert à Venise avec l'aide d'artisans, de professionnels. Et une galerie ouverte à Paris, offerte à ceux qui ne trouvent pas à exposer, à lire ou à chanter. Jean-Claude Vernier fut un homme ouvert aux hommes. Adolescent déjà, on le verra plus tard. Puis étudiant, militant. Son intérêt fut l'homme, avec un grand H, jusqu'à l'ombre de sa vie. Mais revenons en 1974. Jean-Claude part au Portugal.
À ce moment-là, éclate la révolution des œillets. Et Salazar, au Portugal, est foutu à la porte.
Délicatement.
Et les journalistes me disent, voilà, on a pris le contrôle de la radio. Est-ce que tu veux venir nous aider ? Alors j'étais enchanté. Et puis je leur dis, le temps que je prenne mes dispositions, je vous rejoins.
La rédaction de Radio Renascença fait appel à lui pour mettre en place une structure opérationnelle pour la nouvelle rédaction. Et donc vous avez fermé la porte de Libération ?
Oui.
Pour aller vers une autre utopie ?
Oui, sauf que cette utopie-là a marché.
Après le Portugal, en 1975, Jean-Claude rejoint l'Imprévu, un nouveau quotidien où il doit mettre en route l'administration et le service de diffusion. Quand vous revenez du Portugal, il y a quelqu'un qui vous appelle.
C'est un ami, Maurice Clavel, et qui dit, il y a un journal qui est en train de se fonder, qui correspond à ce que tu voudrais faire. Et c'était en fait l'Imprévu de Bernard-Henri Lévy.
Alors vous avez travaillé avec lui quelques mois.
Quelques mois, et puis après, j'ai jamais vu ce qui sortait. Et puis un jour, je demande un numéro, et je vois que ce numéro était pratiquement totalement consacré à Mitterrand. Or, je ne supportais pas Mitterrand parce qu'il était ministre de l'Intérieur quand j'allais partir en service militaire. Et il avait supprimé les sursis.
Alors, revenons à BHL. Quand l'imprévu, a priori, ne marche pas très 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 fort, vous n'êtes pas appelé par le père de Bernard-Henri Lévy qui veut vous voir ?
Si, parce qu'il voulait savoir ce que son fils lui avait coûté. Et comme j'étais responsable de l'administration, j'étais au courant. Alors il me dit merci, je vous envoie un chèque. Et c'est ce chèque qui m'a permis de partir à Venise.
1976-1977, le long de la lagune, Venise. À l'époque, ce n'était pas le Venise d'aujourd'hui, donc là, il y avait encore des choses. Mais l'argent manque et puis quelqu'un vous héberge à Venise.
Oui, j'avais un ami qui était restaurateur. Je vais le voir et il me nourrit pendant toutes ces périodes. Il me dit jusqu'à ce que tu aies trouvé du boulot.
Et il y a une opportunité qui s'offre à vous là-bas à Venise.
Oui. J'avais un ami qui était un copain de bistrot et qui me dit... Si tu as un local, moi je veux bien te faire les travaux et tu me paieras quand ça commencera à marcher.
Vous l'avez trouvé ce local ?
Oui, ça s'appelait la Malvasia. Et puis j'ai cherché l'histoire. La Malvasia, c'était un endroit où les aristocrates venaient boire du vin de Sardaigne au XVIe siècle. Voilà. Et donc j'ai appelé ce restaurant, la Malvasia Vecchia.
Ce restaurant, Jean-Claude y proposait des plats traditionnels dont il avait recueilli les recettes auprès d'une vénitienne, la mère de l'un de ses fournisseurs, un artisan boucher. Donc vous êtes dans la presse, vous êtes trotskiste, maoïste, protestant et en tant catholique, et vous arrivez à Venise et vous ouvrez un restaurant.
Oui, c'est ça.
Un an ?
Deux ans, et ensuite, comme ça marchait bien. Notamment parce que Jean-Paul Sartre était venu avec Simone de Beauvoir. Donc ça avait fait une énorme pub.
Quand il quitte Venise en 1977, les travaux nécessaires pour ouvrir le restaurant furent intégralement remboursés. Il laissa ce restaurant à son associé, Marga, une fille de restaurateur qui lui avait tout appris du métier. Et vous partez en 1977 parce que, en fait, il y a Evre Géry qui vous appelle.
Oui.
Pourquoi faire ?
Pour être animateur. Elle me dit, voilà, on vient de me confier une émission de service pour les vieux qui s'appellera Télé Troisième Âge. Est-ce que tu serais d'accord ? J'en ai parlé autour de moi. Ça intéresse personne. Alors je dis oui, je suis d'accord.
De 1977 à 1986, Jean-Claude est producteur, enquêteur et animateur de télévision. En 6 ans, son émission Télé Troisième Âge, devenue Histoire de Vivre, atteint un taux d'écoute de 7%, le même que celui d'Apostrophe, émission phare de Bernard Pivot.
Extrait d'écrit de Jean-Claude Vernier.
Le téléspectateur m'était reconnaissant, plus exactement, me reconnaissait. Surtout dans la rue, où l'on m'abordait facilement. Je n'étais pas insensible à ses amabilités. Mais il est aussi vrai qu'on n'était plus connu. Au royaume des animateurs, les animateurs sont rois. Donc je présentais à votre service, comptant bien que mes fidèles, on dit ainsi, téléspectateurs, fussent aux miens, pour les courbes d'audience auxquelles était rivée mon existence animatrice. Les semaines passant, je m'aperçus qu'on me sollicitait souvent, pas pour les soldes des supermarchés, je n'avais ni le bagout ni le look, mais pour animer des débats, en être le modérateur. Curieux choc des mots assemblés. Le même est chargé par la racine latine de sa fonction d'insuffler l'âme, quand la dite fonction veut qu'au contraire on y mette de la mesure. Mais c'est ainsi. J'en fus flatté, cette fois on me reconnaissait vraiment et modérait plusieurs débats jusqu'au jour où je constatais avec surprise que ma présence à l'affiche attirait la pratique bien plus que le débat. Je vérifiais autour de moi et fus encore plus surpris, un peu mortifié, de constater que tous mes collègues animateurs étaient comme moi sollicités et que tous pensaient comme moi l'être seul. Ah, le pouvoir est loin quand on découvre qu'on le partage. Un jour, je lus sur l'affiche « Ce soir, débat avec Jean-Claude Vernier ». De thème du dit débat, point. J'étais devenu modérateur de moi-même. L'expérience fut riche et salutaire. Il faut avoir vécu sur les sommets médiatiques pour savoir combien l'air y manque, même si l'on n'y manque pas d'air.
C'est en 1979, à 39 ans, que Jean-Claude publie un roman « Nous ne nous aimons pas », un travail réalisé sous l'œil vigilant de Maurice Clavel, un roman crépusculaire. Extrait.
La peur qui ne dort pas. J'ai voulu dormir, ne pas me demander s'il pleuvait. La pluie sera froide et serrée comme un peigne. Elle aura fait disparaître le quai et ce qui se cache avec lui gommé, tout autre reflet que celui de ses gouttes dures. Elle aura tout enveloppé. Elle aura fait oublier jusqu'à l'idée de l'horizon. Pourtant, l'ampoule a tout juste amorti ses oscillations. Le café cuit sur le réchaud que son débordement parsème de flammèches jaunâtres. Il n'y a donc pas que la peur et le silence à loger ici. Qu'importe s'il se dissimule ou s'il regrette, aujourd'hui, le quai m'a parlé. Bon anniversaire ! Je dois absolument redescendre, je dois scruter la nuit, m'arracher quelques pas nécessaires et savoir. Je dois oublier la porte, casser la paroi qu'il ne s'agit plus d'user patiemment, m'y couper s'il faut, traverser. Je dois courir vers les blocs de pierre, y marcher en brisant leur unité provisoire. Dans cet appel, tout à l'heure, il y avait comme le chant mêlé de trois voix. À peine la porte entr'ouverte, un sursaut m'assaille. Il m'attrape en traître, aux genoux, aux épaules, me tire en arrière d'un grand coup. La chaise bascule, les piles de cahiers se défont, se répandent. Assis au bord du lit, j'ai la respiration coupée. En 1981, oui. Au moment où votre ami Mitterrand accède au pouvoir, vous devenez galériste.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que c'est que cette galerie? Qu'est-ce qui se passe dedans?
J'avais décidé de faire les premières expositions de gens qui n'avaient pas trouvé d'endroit où faire l'exposition.
Vous faites de l'exposition de choses visuelles, mais vous faites aussi de la poésie. Il y a plusieurs activités là-dedans?
Oui, oui, oui. Il y avait de la musique, de la poésie. Et même du théâtre.
Oui, parce que je crois qu'au total, vous avez accueilli 23 expositions, 320 artistes. C'est pas rien.
Eh non, mais il y avait plein de gens qui ne trouvaient pas de galerie pour les exposer.
Cette galerie Passerelle est rue Pernetti, dans le 14e arrondissement de Paris. C'était un ancien atelier de fabrication de boutons pour Christian Dior. Un atelier qui attendait sa destruction pour laisser la place à une construction de logements. Et deux ans plus tard, en 83, là c'est encore quelqu'un d'autre qui vous appelle, cette fois-ci c'est pas Eve Ruggieri, c'est un homme assez important dans la télévision en fait, qui vous appelle.
Oui, oui, oui.
Parce qu'il faut rappeler que dans ces années-là, il n'y a pas Internet, il n'y a rien de tout ça encore, oui. Ça, tout balbutie. Et en fait, c'est quand vous êtes dans le groupe TF1 que vous avez cette idée de créer une succursale à TF1. C'est quoi cette succursale? Qu'est-ce que vous voulez créer à ce moment-là?
TF01, c'était un laboratoire pour les nouvelles technologies.
Oui, nous sommes bien en 1983 et on parle bien de nouvelles technologies. Et vous verrez à quel point Jean-Claude Vernier était extrêmement en avance.
Les entretiens avec Jean-Claude Vernier ont été réalisés en juin et juillet 2023 par Jean-Louis Vinet. Le livre « Nous ne nous aimons pas » de Jean-Claude Vernier a été publié aux éditions Verdier. Cet épisode a été réalisé avec l'aide de Martine Fessel-Vernier, sa veuve. La réalisation est de Jean-Louis Vinet, avec la voix de Rose Monet et les musiques de Paz. C'est une production de l'association Journalisme et Photographie. Janvier 2024.